Chapitre 17. Un beau jour, vers la fin de l'après-midi, la cuisinière passa la tête par la porte de l'office et me lança d'un ton suppliant. « Daniel, va vite chercher le docteur Marlowe. Dis-lui que Molly a encore un de ses malaises. » Je courus jusqu'à son bureau. L'heure était trop grave pour se soucier des bonnes manières, mais j'ouvris la porte sans frapper. « Eh bien, Sophie, qu'y a-t-il donc de si urgent » murmura-t-il d'un ton amusé, sans pour autant interrompre la lecture des documents posés devant lui. Puis il leva les yeux. Lorsqu'il me vit, son visage changea d'expression, et il mit prestement de côté ce qu'il était en train de lire. « Daniel ?»« Kathleen vous fait dire que Molly s'est évanouie. » Curieusement, il parut soulagé. Mais il ne fit pas de commentaire, et se contenta de mettre par terre, loin derrière sa chaise, le document qu'il lisait, puis se leva, passa devant moi et se hâta dans le couloir à la porte de l'office. Je le suivis. La pauvre Molly était étendue sur le carrelage. Kathleen avait déjà soulevé sa tête toute molle pour la poser sur ses genoux. Je ne sais quelle était la nature de mes soupçons, mais toujours est-il qu'au lieu de saisir l'occasion d'observer un homme dans l'exercice de ce métier que j'espérais bien apprendre plus tard, je préférais fermer la porte et longer discrètement le couloir pour retourner dans le bureau du docteur. Je me penchai par-dessus la chaise pour ramasser ce qu'il lisait si attentivement. C'était une revue intitulée « Maison de campagne ». Pour refaire tant de mystère alors, car j'étais certain d'avoir vu dans son regard presque coupable autre chose que la honte d'être surpris en flagrant délit de se distraire au lieu de travailler. Intrigué, je feuilletai le magazine, sautant des articles rébarbatifs sur les titres de propriété et le droit de pêche et les gravures représentant des maisons de plus en plus luxueuses, depuis la loge de concierge jusqu'aux manoirs les plus somptueux. Et tout à coup, je tombai dessus. Une aquarelle représentant ma maison de poupée. Au-dessus, on pouvait lire « Annonce de particulier » et au-dessous, « Appel aux abonnés ». Homme sérieux cherche information relative à cette propriété, connue jadis sous le nom de Highgate. Tout renseignement sera le bienvenu. À côté était indiqué un numéro de poste restante auquel les abonnés pouvaient écrire. Je me rappelais maintenant le jour où Sophie m'avait parlé de l'artiste qui faisait la cour à sa sœur. Une fois certain qu'il n'avait pas donné le moindre coup de pinceau à ma maison de poupée, je l'avais oublié. Comme Sophie, j'avais sans doute supposé que la peinture avait été commandée dans le vain espoir de me réconforter après la mort de ma mère. J'avais changé d'avis désormais. De toute évidence, le docteur Marlowe avait retenu que la maison de poupée était la réplique exacte de la maison d'enfance de ma mère. Il s'était mis en tête d'enquêter à ma place, sur mon histoire. J'aurais dû en éprouver une immense gratitude, je sais. J'aurais dû sentir en moi une bouffée d'émotion et me dire que décidément la gentillesse de cette famille n'avait pas de limite. Mais pour être franc, c'était de la peur que j'éprouvais, de la peur et de la rancune. N'avais-je pas vécu assez de drames comme cela? J'avais perdu ma mère et ma maison, n'était-ce pas assez? Ne pouvait-il oublier mon sinistre passé et me laisser goûter le bonheur de devenir un membre à part entière de sa famille, un frère pour ses filles, un fils pour lui et Mrs. Marlowe. J'aurais dû me contenter de dire qu'il s'agissait de ma maison de poupée, j'aurais préféré qu'il se donne moins de mal pour moi, pauvre victime du plus étrange des déracinements. Mais surtout, je priais pour qu'il échoue dans sa tentative de retrouver la trace de ma vraie famille. J'espérais ardemment qu'aucun lecteur de maison de campagne ne lui avait écrit, que personne ne lui répondrait jamais. Je m'empressai de remettre la revue par terre et sortis du bureau juste à temps. J'entendais déjà ses pas approcher. « Elle va bien ?» demandai-je en feignant d'avoir emprunté le couloir pour aller prendre des nouvelles de Molly. « Un peu mieux. Ce n'est pas la première fois que cela lui arrive. Cette fille manque de fer. Elle a du sang de navet, » ajouta-t-il en riant. « Et comme la plupart de mes patients, elle ne suit jamais mes conseils. » Il jeta un coup d'œil à la vieille pendule qui tic-taquait à son rythme tranquille. « Mais il est temps que je me remette au travail. » Sans rien ajouter, il entra dans son bureau et ferma la porte. Je ne sais si c'était le fait d'avoir vu le tableau de Highgate qui me fit partir dans l'autre direction. En tout cas, je tournai les talons et revins dans le petit salon. Depuis que Sophie avait jeté son dévolu sur la maison de poupée, je m'étais rarement retrouvée seule avec cette demeure miniature. Elle se dressait là, devant la baie vitrée inondée de soleil. Les rayons passaient à travers les persiennes. Les roses peintes brillaient. Le lierre qui grimpait sur les murs avait un aspect aussi luisant et sombre que si chacune de ses feuilles venait de pousser. Ayant ouvert les deux panneaux avant, je promenai mes doigts dans les pièces, redressant une chaise, reposant une minuscule corbeille de fruits sculptée sur la console cirée où elle devait être. Je ne voulais pas commencer un jeu tout seul. J'avais trop peur que les filles, en revenant de leur cours de danse, me surprennent en train de jouer comme un enfant. Pourtant, j'aimais passionnément tous ces personnages, et je n'y avais pas touché depuis des semaines. Le premier à sortir fut Topper, puis la jolie Rubiana, à la bouche en cœur, ensuite Al. Un fil rouge pendait du bonnet que ma mère lui avait crocheté pour dissimuler la cicatrice à l'endroit où j'avais cassé sa couronne. Si elle avait été encore en vie, elle aurait rentré ce petit fil en un clin d'œil, avec ses minuscules crochets de dentelière. Le sentiment de manque vint me transpercer comme un poignard. Je me ramassai sur moi-même, les bras autour de mes genoux que je serrais de toutes mes forces. Les larmes jaillirent si soudainement que tout devint trouble autour de moi. Est-ce pour cela que la maison de poupée me parut tout à coup si réelle, que sur le tapis Topper sembla s'étirer un peu dans son sommeil, et que lorsque je voulus prendre Mrs. Golightly, ce petit sujet de bois qui ressemblait tant à ma mère, j'eus l'impression qu'elle me fixait avec insistance. Je battis les paupières pour chasser mes larmes. J'étais encore assez près de l'enfance pour ne pas avoir oublié qu'une poupée, aussi inexpressive que soit son visage, peut partager toutes vos humeurs. Mais là, c'était autre chose. Les yeux brillants de Mrs. Golightly me scrutaient intensément. Pire encore, ils semblaient m'implorer. Je m'entendis murmurer. « Que veux-tu? Qu'attends-tu de moi ?» Juste à ce moment, le charme fut rompu. J'entendis la porte d'entrée claquer et de joyeux bavardages envahir le vestibule. La porte du salon s'ouvrit à la volée. « Daniel !» Ce que j'avais redouté m'apparut alors comme un soulagement. Sophie était revenue, me surprenant devant la maison de poupées. Déjà, elle m'avait rejoint sur le tapis, voulait jouer avec moi, m'enjoignait d'inventer une histoire. Sophie était là, qui me racontait gaiement sa promenade en ville et dissipait les ténèbres.